Aujourd'hui avec le père Henri Lefer.
Le 2 mars 1858, à l'occasion de sa 13e apparition à Lourdes, la Vierge dit à Bernadette: « Allez dire aux prêtres que l'on construise ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. » Le même jour, la voyante rencontre le curé de Lourdes, l'abbé Peyramale, et lui transmet la demande de la belle dame. Le curé dit alors à la voyante qu'il n'y répondra favorablement qu'à condition de connaître le nom de la personne qui lui adresse une telle requête. Les 3 et 4 mars, soucieuse de satisfaire la volonté de l'amie, qui lui manifeste un respect qu'elle n'a jamais connu auprès des autres habitants de Lourdes, Bernadette n'a rien de plus pressé que de prier la belle dame d'avoir la bonté de lui dire son nom. Mais à chaque fois, elle n'obtient pour toute réponse qu'un sourire. C'est ainsi que les événements de Lourdes nous mettent en présence de 3 demandes insatisfaites. Une demande de la Vierge, une demande du curé et une demande de Bernadette. Comment dénouer cet enchevêtrement de suppliques ? En fait, sa résolution est conditionnée à la révélation du nom de la belle dame de la grotte. Là réside tout le nœud de l'affaire. Aussi, le 25 mars 1858, solennité de l'Annonciation dans l'Église universelle, Bernadette est-elle plus déterminée que jamais à obtenir une réponse de la part de la belle personne qui lui fait la grâce de converser avec elle à la grotte. Et c'est bien ce qui arriva. Ce jour-là, point culminant des apparitions de Notre-Dame à Lourdes, Marie fit ce qu'elle n'avait jamais réalisé dans aucune apparition sur terre, révéler son nom. « Je suis l'Immaculée Conception », dit-elle à Bernadette. Cependant, avant de livrer cette révélation bouleversante, la Vierge accomplit 3 gestes significatifs qui constitue une brève et stupéfiante catéchèse sur les 3 vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité. D'abord, la belle dame joint les mains. Par là, elle nous enseigne que la foi se renforce par la prière. Ensuite, elle écarte les mains et étend ses bras vers la terre. Elle nous montre ainsi qu'elle se soucie du sort de ses enfants en but aux difficultés de toutes sortes ici-bas, et qu'elle écoute leurs prières en les recueillant dans ses mains. Ce second geste représente un motif d'espérance. Enfin, avant de prononcer les paroles décisives et de briser le silence qui oppressait Bernadette, la Sainte Vierge ramène, en les joignant de nouveau l'une à l'autre, ses 2 mains. À la hauteur de son cœur, elle lève les yeux au ciel. Par ce 3e geste solennel, Marie nous révèle combien elle est aimée de Dieu. Comme si, sentant que son cœur va éclater sous l'effet de l'amour que le Père lui porte, elle désire contenir son bonheur. Surtout, avec ce double et ultime mouvement, Marie nous dit que nous aussi, nous sommes aimés par Dieu, du même amour qu'il porte à sa fille de prédilection. Ainsi, les 3 gestes de la Vierge, qui précèdent la révélation de son nom, à Lourdes, constitue-t-il une pédagogie saisissante par le corps de la spiritualité chrétienne, munie du don des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Le disciple de Jésus est bien armé pour franchir les épreuves de l'existence et mener à bien ses projets au service de ses frères et de l'évangélisation. Nous avons vu que la belle dame donne son nom le jour de l'Annonciation. Et je voudrais revenir sur ce mystère de l'Annonciation à travers ces différentes instructions. Qui dit Annonciation dit Vierge Marie, nous l'avons vu. Sous ce terme, créé pour cela, l'Église désigne l'événement biblique durant lequel l'ange Gabriel dit à Marie qu'elle deviendra la mère du Sauveur. Ce à quoi la jeune fille de Nazareth répond par le fameux « Fiat », qu'il en soit ainsi. Mais le récit présente seulement, dans le 3e évangélique, celui de Luc, trouve un parallèle chez saint Matthieu, que certains appellent l'Annonciation à Joseph. Au verset 18 à 26 de son 1er chapitre, ce récit est mentionné. Une péricope qui est lue à la messe du 18 décembre chaque année, en préparation à la solennité de la Nativité du Seigneur. Le pape Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique « Redemptoris Custos » sur l'époux de Marie, paru en 1989, parle d'une analogie étroite entre les deux récits évangéliques, donc entre l'Annonciation faite à Notre-Dame et celle faite à Saint-Joseph. Le messager divin introduit Joseph dans le mystère de la maternité de Marie, comme pour la mère de Jésus. Un ange vient trouver l'homme juste alors qu'il a décidé de répudier sa fiancée en secret puisqu'elle est enceinte. Un moyen de respecter la loi, mais aussi la réputation de Marie. Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » De la même manière que la Vierge Marie, Joseph voit donc l'irruption dans sa vie de la grâce. Alors que son plan est abouti, l'homme de Nazareth laisse Dieu le modifier. Par sa résolution de suivre la volonté du Père, il accorde sa foi à l'accomplissement des promesses qu'il a reçues de ses ancêtres énumérées un peu plus tôt dans une généalogie. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, est-il dit au verset 24. Jean-Paul II peut alors dire que Joseph manifeste ainsi une disponibilité de volonté semblable à celle de Marie, à l'égard de ce que Dieu lui demandait par son messager. Il y a, dans les deux textes de Luc et de Matthieu, les différentes caractéristiques du genre littéraire des annonciations relativement courant dans l'univers biblique. Une situation bloquée à vue humaine, une intervention divine troublante le plus souvent, un dévoilement du dessein divin, une objection humaine et la réalisation par obéissance du serviteur de Dieu qui a reçu l'annonce. Par cette mise en avant de Joseph, l'évangéliste Matthieu permet au lecteur de voir à travers un autre regard la venue du Sauveur, de s'identifier à l'homme juste, de mieux voir comment Dieu agit dans ce monde, non par toute puissance, si ce n'est celle de l'amour, mais par coopération de la grâce première et de la volonté humaine. Alors en ce mois de mars, confions-nous évidemment dans les mains de Notre-Dame qui a su dire oui à l'ange, et confions-nous dans les bras de Saint-Joseph, qui a reçu aussi une annonciation, qui a répondu par son fiat, et ce Saint-Joseph que nous fêtons le 19 mars comme patron de l'Église universelle.